Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, fin de la campagne électorale pour les législatives anticipées en Algérie, c'est aujourd'hui même. Et c'est samedi, le 12 juin, que donc les Algériens seront appelés à se rendre aux urnes. Fin de campagne, somme toute, assez calme et paisible, puisqu'il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de dérapage. C'est vrai que la majeure partie des formations politiques de l'opposition ont appelé à boycotter ce rendez-vous politique, sachant que le véritable enjeu sera plutôt l'absentéisme, ceux qui vont voter avec les pieds, comme on dit, en ne se rendant pas aux urnes, estimant que ce scrutin n'est pas représentatif de la volonté qui a été exprimée par la rue, par le Irak. À ce sujet, le Parti socialiste des travailleurs dénonce la répression sans précédent des manifestants du Irak. Ils parlent d'un climat de terreur. Le pouvoir, dit le PST, le pouvoir fait espérer une continuité d'un régime libéral, mais en fait c'est un passage en force qui est prévu pour le 12 juin. Fin de citation. Le chef du gouvernement tunisien est à Genève, Hichem Mechichi, à la rencontre d'une délégation de l'OMS. Il s'agit de mettre en place un système d'activation de l'acheminement des vaccins dans le cadre du programme COVAX, dans la mesure où la situation est toujours extrêmement préoccupante. La porte-parole du ministère tunisien de la Santé fait état d'une situation épidémiologique très grave, notamment à Kasserine et dans d'autres gouvernorats, Kairouan notamment, également Siliana. Donc beaucoup d'inquiétude de la part de la Tunisie qui doit acheminer des médicaments sur place. Mais dans ce contexte de tension économique, il faut trouver de l'argent, il faut trouver de la fluidité pour que le système de santé tunisien puisse se porter au secours de son prochain, de tous ceux qui sont inquiets quant à la disponibilité des injections de vaccins contre le Covid-19. Il est sur le terrain, le président mauritanien Mohamed Cher Khazouani. Il a effectué une visite à Nouakchott et dans ses environs pour s'assurer du bon déroulement, de la mise en place d'un plan sécuritaire plus tonique, plus dynamique, plus réactif. Ceci pour répondre à la recrudescence de vols. Et puis aussi, il y a eu cette inquiétude qui a beaucoup ému en Mauritanie, ce professeur d'université qui a été assassiné dans des conditions obscures. Donc voilà, le président sur le terrain pour rassurer d'abord la population et s'assurer que les directions qu'il a données en termes de sécurité sont bien appliquées sur le terrain. Et signalons que de nombreux Mauritaniens vont suivre le procès du petit Smaël, cet enfant qui a été tué en 2018 en France. Il était âgé de 13 mois à peine. Il a été affamé, battu par ses parents. Et cette affaire intéresse en Mauritanie puisque le père était français, mais né en Mauritanie. Il a épousé une Ivoirienne. Bon, c'est une affaire qui est assez dure, hein. C'est un fait divers assez cruel, même totalement épouvantable pour ce pauvre enfant qui est mort sous les coups de ses parents. Mais voilà, en Mauritanie, beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements quant au procès qui s'est ouvert en France sur ce meurtre épouvantable. Découverte terrifiante en Libye après le départ de mercenaires russes de la société Wagner, la société militaire privée, lorsque les équipes de l'ONG Free Field qui s'occupe du déminage des zones de guerre, lorsqu'ils sont arrivés sur zone dans des lieux qui avaient été habités par ces mercenaires, ils ont trouvé bien évidemment du matériel de musculation, des bouteilles d'eau, des bidons de lait, etc. Mais surtout, ils ont trouvé des mines, des objets qui étaient piégés, notamment des toilettes qui avaient été conçues avec un capteur pour enfler de la TNT lorsqu'une personne s'asseyait dessus. Beaucoup de mines ont été posées, ce qui pose évidemment un immense problème pour rendre les lieux sains à la présence humaine. C'est en tout cas le travail de ces démineurs qui continuent leur travail sur zone. La Libye où les gardes-côtes ont secouru 59 migrants illégaux, essentiellement des Africains, qui tentait de rejoindre les côtes européennes. On peut signaler aussi au Liban ses sources politiques qui font état d'un futur sommet conjoint libano-syrien. Si ce sommet venait à être confirmé, ce serait une formule tout à fait inédite depuis le début de la guerre civile. Un sommet entre ces deux pays pour parler de la question des réfugiés. Nombre de Syriens ont été déplacés au Liban. Ils ont fui la guerre. Est-ce qu'ils vont rester en terre libanaise? Est-ce que c'est le moment de rentrer au pays? Est-ce que la situation sécuritaire le permet? Les Libanais auraient tendance à penser que oui, ils sont là de subir la charge financière de ces réfugiés syriens. Ce n'est pas pour une question humaine, mais pour une question financière, tout simplement. On sait que le Liban est confronté à d'importants problèmes économiques. Est-ce que ces réfugiés vont rester? Est-ce qu'ils vont rentrer au pays? Ce serait tout le sens de ce sommet s'il est confirmé entre le Liban et la Syrie concernant la question des réfugiés.
Brutale doxa, terreur terrorisante.
C'est un coup dur, très dur pour le Canada, qui est notre escale du jour. Le Canada qui est fier d'avoir un modèle migratoire épanoui. Ce pays ouvre ses frontières à des populations issues du monde entier. Certaines sont musulmanes, c'est vrai, mais aujourd'hui sont parfois victimes d'actes de terreur. Un chauffeur vient de foncer avec sa camionnette sur une famille de musulmans. 5 personnes, 4 ont été tuées, l'un est grièvement blessé. Un acte absolument condamné par toute la classe politique canadienne et québécoise, sachant que les événements se sont déroulés dans l'Ontario, donc au sud de la province du Québec. Des événements qui viennent toucher donc le cœur de la nation canadienne, qui a fait de l'ouverture à l'autre et de l'acceptation et de l'intégration de populations qui sont différentes un modèle de société. Aujourd'hui, le monde de la recherche au Québec travaille beaucoup sur les franges extrémistes de droite, ce que l'on a appellent les suprémacistes blancs, ceux qui pensent que la race blanche est supérieure à toutes les autres et qui développent ainsi des discours de haine, qui vont s'armer, qui vont penser à des modes opératoires pour créer un système de terreur qui va faire peur aux migrants pour essayer de les dissuader de venir travailler au Canada. C'est là véritablement une stratégie qui est menée par ces groupes suprémacistes ou même par ces individus qui vont seuls chez eux à la maison devant un ordinateur, s'auto-déclencher, procéder à un auto-allumage. Ils vont décider seuls de foncer en camionnette sur une famille de musulmans pour expurger le surcroît de haine et de rage qui est en eux. Il faut que les autorités canadiennes travaillent sur ces individus avant qu'ils ne passent à l'action. Beaucoup d'efforts sont faits par les autorités fédérales et gouvernementales pour prévenir ces actes de terrorisme. Cela s'appelle du terrorisme, à savoir avoir une doxa et précéder cette doxa d'actes de terreur. C'est le cas, c'est ce qui vient de se produire au Canada. C'est un acte de terrorisme au sens premier du terme. Et les victimes sont, encore une fois, serait-on tenté de dire, des musulmans qui n'avaient rien demandé à personne, si ce n'est de pouvoir migrer tranquillement et de participer à la vie canadienne telle qu'elle a toujours été promue par les autorités de Toronto. Une vie placée sous l'égide du travail, de l'intégration et de la tolérance.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.